Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et comme chaque jour à 14h, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors je voudrais attirer votre attention en ce début de semaine sur le prochain numéro de L'ombre d'un doute sur France 3. Il aura lieu mercredi prochain, le 27 à 20h45, et nous y parlerons de l'histoire de Fontainebleau. Aujourd'hui, grâce à Joël Chevet, nous allons faire mieux connaissance avec l'épouse de Louis XIV, le plus souvent réduite à jouer les utilités, la reine Marie-Thérèse. Et tout de suite, à titre de mise en bouche, je vais vous parler de son mariage en 1660. Vous allez voir qu'on est loin de la romance. En réalité, ce mariage royal aura été la plus grande question politique du temps et il aura mobilisé les énergies des plus grands personnages, Mazarin, Condé, le mythique Philippe IV d'Espagne. Vous savez, celui qui a servi de modèle à Velázquez.
Et pour rester dans l'ambiance, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Julie sur les origines de l'éventail.
Voilà, et vous verrez que ça va nous amener loin, bien en amont de Louis XIV et de Marie-Thérèse. Pour l'instant, nous mettons le cap sur le Pays Basque, sur Saint-Jean-de-Luz.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il a eu 20 ans en 1658 et s'il n'est pas encore le roi soleil tel que vous l'imaginez, il s'impose déjà comme un monarque superbe, plein de santé, avec une profusion de cheveux bouclés. À l'époque, il n'a pas encore besoin de perruque. Il faut que vous l'imaginiez avec sa petite moustache à peine une ombre et ce regard à clouer tout le monde sur place. Louis XIV n'a que 20 ans, mais cela fait déjà 15 ans qu'il règne. Et pour le moment, il profite de ce que la vie peut offrir à un jeune souverain bon à marier. Il sait que les affaires de son royaume sont entre de bonnes mains, puisque c'est son parrain, Jules Mazarin, qui, sous l'œil vigilant de la reine Mère Anne d'Autriche, s'occupe de tout. Monsieur le cardinal, comme on l'appelle à la cour, a réussi à survivre à une révolution, ce qu'on appelle une révolution qui voulait pas dire son nom, qu'on appelle la Fronde. Vous pensez bien que les affaires courantes ne lui pèsent pas lourd. Il a la haute main sur les finances, il en profite largement d'ailleurs, aussi bien que sur la diplomatie. Parfait. Pendant que Mazarin s'occupe des affaires de l'État, le jeune roi, lui, s'occupe de ses nièces, les Mazarinettes, c'est le sobriquet qu'on leur donnera. Ces Mazarinettes ont quitté Florence pour Paris à l'invitation de leur oncle qui souhaitait les faire profiter en quelque sorte de son effarante réussite. Or, Louis XIV, à cette époque, est déjà passé entre les bras d'Olympe Mancini, l'aînée de la fratrie, de loin la plus belle, mais dit-on la plus sotte aussi. Puis il s'est laissé séduire par l'or, qui n'a pas su le retenir bien longtemps, et finalement, c'est sur la petite dernière, une jeune fille effacée, pas très remarquable, que le roi paraît avoir pourtant jeté son dévolu. Marie Mancini a de beaux cheveux noirs, des yeux troublants. Pour le reste, ni sa taille médiocre, ni ses formes un peu tassées n'en font une beauté, seulement elle possède des atouts que les autres jeunes femmes de la cour pourraient à bon droit lui envier. D'abord, elle a souffert, la pauvre Marie. Souffert de sa mère, qui la méprisait, dit-on, de ses sœurs, qui n'ont cessé de se moquer d'elle. Il y a un côté cendrillon, si vous voulez, chez cette Marie, qui a dû plaire au jeune roi. Et puis, elle sait ce qu'elle veut, la petite Mancini. Rien n'est trop beau pour ses rêves, ni trop élevé. Surtout, le temps qu'elle n'a pas perdu à s'amuser étant plus jeune, Marie l'a consacré à lire et à se cultiver. Et c'est donc une jeune femme lettrée, savante même, un peu précieuse, si vous voulez, qui se permet d'initier le jeune souverain à tout un monde raffiné que son éducation un peu trop virile avait laissé de côté. Marie, pendant des soirées entières, s'amuse à lire à son royal amoureux des romans de chevalerie. Il faut imaginer la scène. Louis s'imagine dans l'armure du sublime Renaud protégeant la divine Armide, et puis les vers de Tristan et la carte du tendre. Le coup de génie de Marie Mancini, c'est d'avoir compris qu'il ne suffisait pas de présenter un grand décolleté et de croiser la jambe un peu haut pour retenir le cœur d'un jeune roi déjà blasé. Désormais, Louis XIV va jouer au héros de guerre pour gagner le cœur de sa belle, et c'est ce qu'il fait pendant toute la campagne de Flandre. Hélas, le sort s'en mêle, le jeune roi tombe malade. Après la bataille des Dunes, vous connaissez évidemment cette histoire, il faut le transporter à Calais, l'aliter, et pendant des jours, les médecins, qui seraient plutôt plus nuls que ceux de Molière, pour tout vous dire, se relaient à son chevet. On saigne le malade plusieurs fois, on le purge sans arrêt, n'importe qui, même en pleine forme, succomberait à un tel régime, et naturellement, la santé de Louis se met à décliner à vue d'œil. La reine-mère se morfond à son chevet, le cardinal s'inquiète beaucoup pour l'avenir. Quant à Marie, dans sa chambre, elle passe ses journées à pleurer. Elle verse des larmes sur son bel amoureux, c'est certain, mais elle en verse encore plus sur ses projets, sur ses rêves de grandeur, sur ce fantasme secret qui la taraudait et faisait d'elle en songe déjà la reine de France. Coup de théâtre, soudain, le jeune roi, qui a été purgé à l'aile et bord, recouvre la santé. En quelques jours, il est sur pied, et dans tout le royaume, ce n'est qu'un cri d'allégresse. Naturellement, Louis XIV se fait raconter en détail les réactions de la cour pendant sa maladie, et il apprend comme cela qu'un certain nombre de personnages avaient commencé déjà à flatter son frère unique, n'est-ce pas, le duc d'Anjou, celui qu'on appelle monsieur. Il apprend aussi, en passant, il faut dire que évidemment il y a de mauvaises langues autour de lui qui se font fort de l'informer, il apprend que certains ont fait littéralement des paris sur sa succession, ont commencé à changer de parti. Alors que pendant ce temps, une jeune personne n'a cessé de pleurer des jours et des nuits, et c'est Marie Mancini. Louis XIV est touché, il l'est profondément, peut-être même définitivement. En ce qui me concerne, je pense que cette maladie du roi marque un point d'inflexion dans le règne. D'abord, et personne n'a encore pris la peine d'étudier cela en détail, mais cette épreuve, je pense, a fait mûrir Louis XIV, et d'un coup, si l'on peut dire. Il s'est couché adolescent, il s'est relevé homme, si je puis dire. On situe souvent, vous savez, à la mort de Mazarin, le début du règne personnel de Louis XIV. Bien, dans les faits, évidemment, on a raison. Seulement, dans l'esprit, c'est sans doute de cette maladie que le changement, que la mue mentale, en quelque sorte, doit être daté. Par ailleurs, il est une personne centrale que cette épreuve a beaucoup secouée, c'est la reine-mère, c'est Anne d'Autriche. À certaines heures, elle a véritablement cru que son fils allait y passer et le regret lui est venu très vif de n'avoir pas su le marier plus tôt. Et quand je dis le marier, cela veut dire bien sûr faire de lui l'époux de l'infante d'Espagne, sa propre nièce. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, puisque la Providence a conservé à la reine Anne d'Autriche son cher fils, elle est bien décidée à faire pression sur Mazarin pour hâter la paix avec l'Espagne et rendre possible ce mariage de son fils avec l'infante Marie-Thérèse. Le fils, entre nous, n'en demandait pas tant. Et tandis que monsieur le cardinal, qui sait ce qu'il doit à la reine-mère, évidemment, se lance déjà dans des pourparlers avec les Espagnols, Louis XIV, qui dédaigne tout cela, file le parfait amour avec Marie Mancini. Il est complètement envoûté, que voulez-vous. Alors, Mazarin est au courant. Après tout, il est l'oncle de Marie, et puis il est l'homme le mieux informé du royaume. Il sait Mazarin, il connaît le roi qui est son filleul, qui est son élève depuis longtemps. Il le connaît assez pour savoir qu'au dernier moment, si vraiment l'occasion se présente et si vraiment la nécessité s'en fait sentir, eh bien la raison d'État primera dans le cœur du jeune roi sur toute autre considération.
De la Lande sur Europe 1, un extrait des symphonies pour les soupers du roi, interprété par l'orchestre de chambre de Jean-François Paillard. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la reine Marie-Thérèse.
Et oui, et à ce mariage qui se prépare. Alors il faut imaginer de très longues négociations avec l'Espagne, qui sont pour Mazarin un véritable supplice. Une idée lui vient. le cardinal va offrir la main de Louis XIV à une concurrente directe de l'infante, la princesse Marguerite de Savoie. On pourrait appeler ça un coup de bluff, si vous voulez. La mère de la princesse, qui nous est rêvée pareille alliance pour sa fille, se montre beaucoup moins circonspecte que les Castillans. Elle accepte aussitôt et même avec empressement. Et voilà la cour de France partie pour Lyon, à la rencontre de la fiancée en puissance du jeune roi. Pour Marie Mancini, forcément, ce voyage est un crève-cœur. Vous imaginez sa situation. Louis XIV n'est plus tout à fait le même avec elle. Il se montre moins naturel dans ses propos, peut-être un peu distant. Pire encore, la princesse Marguerite, par son air enjoué, presque malicieux, cette princesse plaît tout de suite au jeune souverain. Lors de la première rencontre qui a lieu en carrosse, le roi lui parle avec entrain, comme s'il la connaissait depuis toujours, et déjà la cour murmure, et les Lyonnais se réjouissent. Alors pendant que Lyon fait la fête, un personnage discret vient de s'installer dans la capitale des Gaules. C'est l'envoyé secret du roi d'Espagne, on disait des Espagnes à l'époque, auprès de Mazarin. Le soir, il se fait introduire chez monsieur le cardinal et lui fait part finalement de l'intention de Philippe IV d'accepter pour l'infante la demande du mariage de Louis XIV. Le coup de bluff a parfaitement réussi. Mazarin a envie de sourire, sa manœuvre a bien marché, mais évidemment il est beaucoup trop habile pour le montrer. Le soir même, dans les appartements royaux, a lieu une scène houleuse entre Louis XIV et sa mère. Habituellement, le jeune roi fait montre du plus grand respect envers Anne d'Autriche. Elle-même n'élève jamais la voix en présence du roi son fils. Mais cette fois, la coupe est pleine, si je puis dire, de part et d'autre. Louis XIV trouve Marguerite de Savoie tout à fait digne de devenir son épouse, alors que la mère, elle, veut évidemment qu'il épouse sa nièce, l'infante d'Espagne. La mère et le fils en sont aux phrases qui blessent quand on annonce la visite du cardinal, et Mazarin leur fait part tout content de la proposition du roi Philippe. Voilà au moins qui met tout le monde d'accord. Tout le monde, sauf la petite Marie Mancini. Encore que le roi l'aime toujours, vous savez. Le voilà détourné de la princesse de Savoie. Il se sent libre de profiter de la fin de son séjour à Lyon. Et tandis que la pauvre Marguerite, très digne, est renvoyée dans sa cour à Turin, le jeune roi paraît plus que jamais amoureux de Marie, qui l'emmène partout. On la voit à son bras, à la promenade, à la chasse. Jamais on n'avait vu de déplacement plus joyeux que le retour de la cour de France vers Paris. On joue dans les carrosses, on rit dans les relais à gorge déployée, et Marie Mancini, qui profite des promiscuités du voyage, se rapproche physiquement du roi. Celui-ci se laisse faire comme s'il voulait oublier la perspective de son mariage espagnol. Il couvre maintenant Marie de baisers, il lui signe des promesses, et une fois de retour à Fontainebleau, la passion de Louis XIV pour Marie Mancini est devenue si publique qu'elle inquiète tout le monde, à commencer par la reine-mère, bien entendu. Mazarin la rassure, le roi s'amuse un peu, c'est de son âge. Ce que l'oncle de Marie ne sait pas encore, c'est que dans le secret de l'alcôve, Louis XIV vient de jurer à sa tendre amie qu'il allait l'épouser et faire d'elle la reine de France. Après tout, est-ce qu'il n'est pas le roi? N'est-il pas libre de procéder comme bon lui plaît? C'est digne du théâtre, cette histoire. Vous savez, d'ailleurs, Racine et Corneille en feront bientôt le sujet, l'un de sa Bérénice, l'autre de son Tite et Bérénice. Ce qui est troublant dans ce projet de mariage entre Louis XIV et Marie Mancini, c'est la réaction de Mazarin. Le cardinal, c'est humain d'une certaine façon, ne peut pas s'empêcher d'avoir de se sentir flatté, évidemment, du penchant du roi pour sa propre nièce. Seulement, Anne d'Autriche est là qui veille au grain, elle remet à tout le monde les pieds sur terre, et la réaction de Mazarin, évidemment, après un premier moment de flottement, est assez brutale. Il décide d'exiler sa nièce dans une forteresse lointaine au bord de la mer. Et en apprenant la nouvelle, on dit que Marie s'est évanouie. Elle touchait au but, Marie Mancini. Elle croyait qu'elle allait devenir la reine. Et voilà qu'un arrêt de cour lui fait l'effet d'une sentence de mort. Perdre ainsi l'homme qui voulait l'épouser et qui, d'un mot, allait lui assurer une revanche éclatante sur une existence jusque-là bien triste, c'est dur, évidemment. Louis va devoir l'aider. Il ne doit pas laisser commettre un tel crime, lui dit Marie. Il doit parler au cardinal, il doit se faire obéir. Et le roi acquiesce. Un instant après, il est en audience privée dans le cabinet de Mazarin. Il argumente, il invective, il supplie, il se traîne à genoux. Seulement, il trouve en face de lui un cardinal inflexible. C'est une scène inouïe, ça. Imaginez le roi de France qui se traîne aux genoux de son ministre pour le supplier de le laisser épouser sa propre nièce. C'est lui, le petit Italien issu de rien, ce petit Mazzarini que les chansonniers présentent comme un bandit débauché. C'est lui qui va devoir rappeler au monarque son devoir et parlait de tuer sa nièce de ses mains plutôt que de la laisser épouser le roi. Louis XIV se relève, il essuie ses larmes, il demande pardon, il disparaît. Cette fois, on peut le dire, il vient de sacrifier son bonheur sur l'autel de la raison d'État. Alors, l'heure à ce moment est venue pour Marie de se mettre en route pour la place forte de Brouage sur l'Atlantique. À l'époque, vous savez que la mer s'est retirée aujourd'hui de Brouage. On est un peu au sud de Rochefort, dans l'actuelle Charente-Maritime, en Aunis, disait-on à l'époque. Les adieux sont déchirants. Le jeune roi est descendu lui-même pour accompagner l'amour de sa vie ou ce qu'il pense-t-elle et ce qui restera peut-être comme l'amour de sa vie d'ailleurs jusqu'à la portière du carrosse. Il pleure à chaudes larmes au point de ne même pas pouvoir parler. Marie, elle, est beaucoup plus calme. On dirait qu'elle est déjà morte. Avec son doigt, elle essuie une grosse larme sur la joue du roi. « Sire, vous êtes roi, vous pleurez et je pars, » dit-elle. Quelle amertume dans ses propos. Racine fera dire à Bérénice « Vous êtes empereur, seigneur, et vous pleurez. » Et j'ai envie de dire que pour une fois, la phrase réelle est plus belle que le mot d'auteur. Marie est montée. Ça y est, son carrosse se met déjà en route. Le jeune Louis éclate en sanglots. Quelques semaines plus tard, c'est la cour tout entière qui, à Saint-Jean-de-Luz, assistera au mariage royal sur la route qui rapproche Louis XIV de Saint-Jean-de-Luz et qui le rapproche en même temps de sa Mazarinette, parce que c'est la même route, hein, évidemment. Tout en se rapprochant de l'Aquitaine, il avance vers l'Aunis. Sur cette route, il est complètement bouleversé. Le roi n'arrive pas à se remettre de ce qui est bien plus qu'une peine de cœur. Et dans son carrosse, la reine-mère secoue la tête. Son fils s'est montré raisonnable, mais sa mélancolie vraiment fait peine à voir.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la première épouse de Louis XIV.
Et oui, alors Louis XIV est déjà en vue de Poitiers quand il est pris d'un violent désir de revoir Marie. À mon avis, il avait cette petite idée dans un coin de sa tête. Rien qu'une fois pour un tout dernier baiser. D'accord, concède la reine-mère, mais rien qu'une fois. Le lieu de rendez-vous des amoureux est fixé à Saint-Jean d'Angély, pas très loin de Saintes. Marie va y être conduite en voiture. Quant au roi, il y vole littéralement sur son meilleur coursier, au grand galop, crinière au vent. Peut-être le roi avait-il mis du temps à devenir vraiment amoureux de son héroïne aux grands yeux noirs. Sans doute Marie Mancini avait-elle mis un peu d'intérêt et du calcul dans cette relation. Mais ce jour-là, à cette heure précise dans Saint-Jean d'Angély, il n'y avait plus que deux amoureux transis qui s'étreignaient à se faire mal. Quand le cardinal, qui lui est au Pays Basque pour achever les dernières négociations avec l'Espagne, lorsqu'il réalise à quel point son filleul est encore attaché à sa nièce, il ordonne au messager d'interrompre tout contact entre eux. Il y a encore des échanges, mais ils vont devenir difficiles. Quand même, le cardinal est très dur avec le roi. Il lui envoie une lettre comminatoire. Louis est plus remonté que jamais et pour cause. Les messagers, en vérité, ont préféré obéir au roi qu'au cardinal et ils maintiennent le lien avec Marie Mancini. Cette fois, Mazarin est à bout de patience. Il met sa démission dans la balance et Louis XIV, parce qu'il est Louis XIV, même s'il ne sait pas ce que cela veut dire encore, accepte de plier devant cette raison d'État. Adieu Marie Mancini, le temps est venu d'aller épouser cette infante d'Espagne. Le luxueux cortège de la cour de France n'est plus très loin de l'île des Faisans, sur la rivière frontalière de la Bidassoa, où doit avoir lieu la rencontre des époux. Pour le traité de paix et pour l'entrevue historique des deux rois, on a construit sur cet îlot un grand pavillon de bois, avec deux longues ailes couvertes de tentures luxueuses. J'ai eu l'occasion de voir des gravures qui représentent toute cette installation, c'était impressionnant. Vous aviez un débarcadère pour la cour de France, un autre pour la cour d'Espagne, et relié au milieu par deux couloirs magnifiques, un vaste salon d'honneur propice aux réceptions d'État. Le 3 juin, le mariage est donc célébré par procuration à Fontarabie. C'était comme ça avant que la future reine de France ne quitte son territoire. On l'a mariée par procuration. Le roi d'Espagne et sa fille sont dans le cœur de la grande église, dans une manière de chapelle de drap d'or, nous dit un témoin. Le jeune roi n'a toujours pas rencontré sa fiancée à l'époque, même celle qui est devenue son épouse par procuration. Avant la cérémonie solennelle, il a quand même l'occasion de l'apercevoir. En effet, Le 4 juin, le roi Philippe, accompagné de sa chère fille, est sur l'îlot de la Bidassoa pour les retrouvailles avec sa sœur Anne d'Autriche, qu'il n'avait pas vue depuis 45 ans entre nous. D'ailleurs, on voit Anne d'Autriche se précipiter vers son frère pour lui sauter au cou. Arrière, il y a l'étiquette ultra rigide de la cour d'Espagne. On n'embrasse pas un roi d'Espagne, le roi recule. La reine mère se retrouve un peu désemparée. Sa nièce et future belle-fille se jettent maintenant à ses genoux. On la relève, on s'assied, on cause. Et soudain, Mazarin s'avance et glisse à leur majesté qu'un inconnu est à la porte et demande à entrer. L'inconnu, évidemment, c'est Louis XIV, qui officiellement ne doit pas encore rencontrer les Espagnols, mais qui aimerait bien faire une petite entorse au protocole pour voir ou apercevoir sa promise. Embarras de la cour d'Espagne, l'infante, elle, jette vers la porte des regards avides et qui la font rougir jusqu'aux oreilles. Sa belle-mère en rajoute un peu. « Eh bien, comment trouvez-vous donc cet inconnu » dit-elle. Cette fois, le père, le roi d'Espagne, intervient. « Il n'est pas encore temps de le dire. » « Et quand pourra-t-elle le dire ? Quand elle aura passé cette porte ?» Et alors là, c'est monsieur, le beau-frère, qui se croit spirituel et qui murmure à l'oreille de Marie-Thérèse. « Et comment semble cette porte à votre majesté ?»« Très belle. » Et très bonne, répond la jeune fille. Un moment plus tard, un cavalier superbe, tout emplumé de rouge vif, raccompagne au galop celle qui, dès à présent, peut être considérée comme sa femme. On ne sait pas quelle impression exacte elle a faite au roi. Lui qui hier encore se consumait d'amour pour une brune un peu garçonne aux yeux brûlants, comment considère-t-il cette blonde à la poitrine opulente et aux grands yeux très clairs ? À la cour, tout le monde a remarqué en tout cas qu'elle avait bonne mine et fière allure, mais la lèvre un peu épaisse. Elle est Habsbourg, que voulez-vous, et le regard inexpressif. Le 9 juin 1660, à Saint-Jean-de-Luz, la noce de conte de fées, comme l'appelle un témoin, est célébrée en très grande pompe. Louis XIV est éblouissant dans un habit entièrement tissé de fils d'or. Quant à Marie-Thérèse, elle porte à présent son grand manteau de reine de France, bleu nuit doublé d'hermine. Toutes les grandes dames de la cour sont là, bien entendu, couvertes de brocarts et de pierres précieuses. Elles se moquent un peu des Espagnols avec leurs coiffures artificielles et leurs vertus gadins ridicules. Il n'empêche que les grands d'Espagne en imposent beaucoup à toute l'assistance. La messe solennelle est un peu longue. 4 heures, mais tellement magnifique, et cette foule qui, par toute la ville, acclame les cortèges sur fond de cloches sonnant à toute volée et de coups de canon sans fin, cette foule est enthousiaste. Arrive l'heure redoutable de la nuit de noces. La petite Marie-Thérèse, qui a été élevée de la manière la plus rigoureuse qu'il soit possible d'imaginer, est terrifiée par ce qui l'attend, mais il faut croire que son jeune époux est déjà un expert dans les choses de l'amour, car le lendemain matin, c'est une petite reine radieuse, littéralement transfigurée, qui se répand en compliments sur son nouveau mari. La voilà déjà amoureuse de Louis XIV. Il n'est pas certain du tout que la réciproque soit vraie. On peut dire que la nouvelle reine de France va remonter par petites étapes vers Paris au milieu d'une véritable fièvre populaire. Hein, c'est tout à fait extraordinaire. Elle a quand même quitté son père et sa famille dans les larmes, bien entendu, mais à chaque fois qu'elle arrive dans une nouvelle ville, c'est pour que la population lui réserve un véritable triomphe. Et pour Mazarin, pour Anne d'Autriche, qui des années durant ont subi les humiliations de la France, on peut dire que cette remontée vers la capitale ressemble à un véritable triomphe. Ils ont bien fait, se disent-ils, d'avoir tué cette idylle dangereuse avec Marie Mancini. Ils ont bien fait pour insister et pour marier le roi de France à l'infante d'Espagne. Bonjour Joël Chevet.
Bonjour Franck.
On ne peut pas dire que ce soit un mariage très enthousiaste de la part de Louis XIV tout de même.
Je modérerai un peu ce propos. Je crois que Louis XIV a quand même fait du chemin après, en effet, le désespoir de quitter Marie. Mais je crois qu'il a compris beaucoup de choses. Vous avez rappelé cette maladie qui lui a fait prendre conscience qu'il était en effet un survivant, comme tous les princes d'ailleurs de cette époque, et qu'il lui fallait assurer sa descendance le plus rapidement possible, puisqu'il y avait son frère qui était là en attente du trône.
À quoi va ressembler ce ménage et quelle sera la vie un peu triste, disons-le, de Marie-Thérèse à la cour de France jusqu'à sa mort en 1683, 23 ans plus tard. C'est ce quart de siècle que nous allons explorer ensemble maintenant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, cet après-midi, vous nous parlez, Franck Ferran, de Marie-Thérèse d'Autriche, avec votre invité, Joëlle Chevet, historienne, spécialiste de la Société d'Ancien Régime et de l'Histoire des Femmes, auteur de Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV aux éditions Pygmalion, collection Histoire des Reines de France.
Et oui, ces reines de France qui font suite au roi de France de Bordonov. Alors, il faut dire, Joëlle Chevet, tout de suite, régler cette petite question. Pourquoi une infante d'Espagne s'appelle-t-elle Marie-Thérèse d'Autriche?
Oui, grand mystère. Eh bien, tout simplement parce qu'elle appartient évidemment à la famille d'Autriche,
donc de la maison d'Autriche,
Habsbourg, hein, les Habsbourg, et de la maison d'Autriche, donc, et que lors du partage en 1556 de l'empire de Charles Quint, celui-ci a donné le trône d'Espagne à son fils aîné, réservant à la branche cadette le trône de Vienne. Mais le nom de famille, c'est d'Autriche. Donc l'infante d'Espagne continue de s'appeler Marie-Thérèse d'Autriche.
Et c'est bien une infante d'Espagne qu'épouse Louis XIV. Alors il faut dire que Louis XIV a une moitié de sang espagnol, bien entendu, puisque sa mère, Anne d'Autriche, était elle-même la fille de Philippe III, mais il est en même temps très bourbon, ce Louis XIV. C'est un personnage, alors on y viendra tout à l'heure, et on va voir comment il a accueilli sa jeune épouse. Attardons-nous peut-être un instant sur Marie-Thérèse elle-même et sur l'enfance qu'elle a vécue dans ce qui est encore le siècle d'or espagnol.
Ouais. Alors, je dirais d'une certaine façon qu'elle est aussi bourbon que lui, puisqu'ils ont les mêmes grands-parents. Donc, pour ce qui est de la génétique, je crois que l'héritage est bien partagé. Ils sont doublement cousins germains, puisque issus donc d'un mariage entre deux frères et deux sœurs. Donc, je passe très vite là-dessus. Pour revenir plutôt, en effet, sur l'enfance de Marie-Thérèse d'Autriche, dans une famille où on l'a souvent considérée comme une victime de cette étiquette espagnole, etc. C'est une fausse image de l'Espagne, où les rois d'Espagne ont au contraire une vie de famille extrêmement proche, extrêmement intime, contrairement à la famille de France qui vit beaucoup plus en public. Et donc là, il faut un petit peu atténuer ces images qu'on doit au XIXe siècle de ces infantes un petit peu sacrifiées à la raison d'État, alors qu'elles ont des existences au contraire très protégée, très choyée, mais également très sévère
et très rigide
et très austère, et dont témoignent en particulier leurs vêtements, ce fameux garde infante qui faisait plusieurs mètres de circonférence et qui était destiné à empêcher d'approcher trop près des princesses. Et vous savez qu'en plus, il n'était pas question de poser la main, de toucher à une princesse espagnole ou à quelques membres de la famille royale que ce soit. Vous avez rappelé la surprise d'Anne d'Autriche qui avait oublié, évidemment, quand elle a voulu embrasser son frère après 45 ans, elle qui donnait toujours ses belles mains à baiser en France, elle avait oublié qu'en Espagne, en effet, ça ne se faisait pas, même dans l'intimité. Pour autant, Philippe IV adore sa fille et ne cesse de le dire dans sa correspondance, même s'il est lui-même d'un abord extrêmement austère. Et pour dire très vite ce qu'il en est de la place de Marie-Thérèse dans cette famille, eh bien c'est la première à partir du moment où ses frères et sœurs ont disparu, et en particulier le prince des Asturies, Balthazar, donc qui disparaît en 1646. Donc il faut imaginer quand même que pendant 10 ans, Marie-Thérèse a été l'héritière du trône d'Espagne, où les femmes montent sur le trône.
Le petit Balthazar, c'est celui qu'on voit sur le fameux portrait de Velázquez, bien entendu.
Le charmant portrait à cheval de Velázquez.
C'est ça. Et puis quant à la reine Marie-Thérèse, elle a été elle aussi beaucoup portraiturée par Velázquez. Alors toujours avec cette coiffure.
Fameuses coiffures, puisque les Espagnols portaient des postiches. En France, ce sont les hommes qui portent des perruques depuis Louis XIII. En Espagne, ce sont les femmes qui portent des perruques et les hommes qui gardent les cheveux naturels.
Alors, il y a un vrai lien familial, évidemment, entre cette famille de France et cette famille d'Espagne. C'est très très mêlé, mais c'est très proche. Mais il y a aussi 7 années d'une guerre terrible, 30 années,
beaucoup
que dis-je,
plus,
d'une guerre.
La guerre a repris en 1635.
C'est ça, oui. Donc, une guerre épouvantable. Donc, l'Espagnol, pour le français de l'époque, c'est l'ennemi. Donc le jeune Louis XIV...
C'est aussi l'étranger.
C'est ça. Parce
qu'il n'y a plus du tout de relations diplomatiques entre les deux pays. Philippe IV n'a
pratiquement
jamais vu
français. Vraiment
les Pyrénées
entre les deux, oui, c'est ça.
Donc c'est très étonnant. Et c'est une cour, en plus, la cour espagnole, qui est très francophobe, déjà sous Philippe III, où l'on voit la reine Isabelle, donc la sœur de Louis XIII, à laquelle on interdit de parler français. Mais en même temps, qui va dire à sa fille... sa fille va la perdre très jeune, puisqu'elle a 6 ans quand Isabelle disparaît, mais qui dit à sa fille que pour être heureuse, il faut être reine de France. Alors, pour autant, est-ce qu'on a programmé le destin de cette jeune fille à être reine de France? Pas du tout. Elle a rêvé d'être reine d'Espagne avant toute chose. Et elle va l'avouer en arrivant en France. Elle va l'avouer autant à Madame de Motteville et à Anne d'Autriche qu'aux Carmélites chez qui elle se retire très souvent et à qui elle dit à quel point elle a rêvé d'être avant tout reine d'Espagne.
Elle est bien sûr très pieuse puisqu'élevée dans l'incroyable religiosité de cette cour d'Espagne.
Oui, cette religion de la contre-réforme, mais qui, paradoxalement, fait une place quand même plus importante aux femmes, en particulier dans la catéchèse. Beaucoup d'ordres féminins sont créés à cette époque. Donc on est là dans la contre-réforme catholique et dans le message de François de Sales qui dit que tout chrétien doit faire son chemin de perfectionnement dans l'état où il est né. Et la reine de France qu'elle sera, entend bien mener cette mission de reine catholique.
Elle a exactement le même âge que Louis XIV.
Exactement, à 15 jours d'intervalle.
J'ai dit de manière très indiscrète que leur nuit de noces s'était bien passée. Elle est tout de suite très éprise de son mari.
Oui, il semble que ce soit... aussi, alors, elle s'est très bien passée.
Voilà, justement.
Il manifeste beaucoup de joie, en effet, le lendemain. La grande mademoiselle le raconte en disant que le roi saute de joie et va sans arrêt embrasser sa femme. Mais j'aimerais dire à propos de ce mariage que ça n'est pas seulement une nuit de noces réussie, c'est aussi, je dirais, un contrat qui s'est d'entrée de jeu lié entre eux, où Marie-Thérèse va montrer le type de reine qu'elle souhaite être. Elle se souvient et elle sait qu'Anne d'Autriche a été, vous le savez, suspectée de trahir la France après la fameuse affaire des lettres espagnoles. Et lorsqu'elle écrit à son père le matin du mariage, elle montre la lettre à Louis XIV, ce qui symboliquement lui dit « voilà la reine que je serai », c'est-à-dire une reine sur laquelle vous pourrez compter en
toute circonstance. Et je serai plus française qu'espagnole, en fait.
Et Dieu sait que la loyauté, en l'espèce, était quand même une des qualités qui était la plus rare et la plus recherchée. Mais en retour, excusez-moi, en retour... Je vous demande de ne jamais être séparé de vous. Et aussi curieux que cela puisse paraître, Louis XIV a tenu le serment. Il n'a jamais découché d'avec Marie-Thérèse. Saint-Simon le dit très joliment, qu'il se mettait entre deux draps avec ses maîtresses, mais qu'il rejoignait le lit conjugal tous les soirs. Aucun roi de France n'a tenu de cette façon-là son serment.
Et l'on verra tout à l'heure qu'il y avait un véritable lien, un véritable attachement très grand, même si on ne peut pas parler d'amour sans doute, mais en tout cas, enfin, une forme d'amour conjugal peut-être.
Une forme d'amour conjugal, tel que je crois que c'est réellement de l'amour. Il a pleuré avec une très grande sincérité, quoi qu'en ait dit Madame de Caylus. Oui. Tous les autres témoignages infirment le sien. Et je pense qu'il y a un réel amour entre eux, mais il y a évidemment ce roi adultère pendant 20 ans qui va évidemment modifier
le
tableau.
On va y venir à toutes ces maîtresses qui seront le crève cœur de la reine, bien entendu, mais avant cela, il faut dire un mot de l'autre contrat de la reine avec la cour de France, c'est qu'elle est là pour faire des enfants. C'est quand même son rôle principal.
Et elle le remplit très vite, puisque dès 1661, en novembre 1661, le jour de tous les saints, naît celui qu'on appellera plus tard donc le grand dauphin, et ensuite 5 autres enfants qui malheureusement n'auront pas la longévité du grand dauphin. 2 petites filles qui vont disparaître très prématurément, et plus tard, en 1672, un autre petit prince. Enfin, il faut imaginer quand même la famille royale à un moment qui a 3 enfants.
Oui.
Le grand dauphin,
une petite
fille qui a 4 ans.
Parce qu'on pense toujours au grand dauphin qui est fils unique, mais il a eu des frères et sœurs.
Une petite fille qui ira jusqu'à l'âge de 4 ans, la petite madame, et ensuite un petit prince qui disparaîtra, lui, entre 2 et 3 ans.
Mais d'où vient-il que tous ces enfants soient de faible constitution et ne survivent pas?
Alors, je dirais que c'est tellement fréquent à l'époque qu'il est difficile. Alors, on parle évidemment de la consanguinité. À l'époque, on ne sait pas quelles sont les conséquences de cette consanguinité, puisque au contraire, on la recherche, pensant qu'elle purifie le sang et qu'au contraire, elle permet de faire de très beaux enfants. Marie-Thérèse n'en a pas perdu, je dirais, plus que les autres. Elle n'en a eu que 6.
Alors, quel type de femme était Marie-Thérèse? Quelle vie menait-on dans sa cour, dans cette cour de la reine de France? Une reine largement oubliée, c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir avec vous, Joël Chevet, dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur sur Europe 1, un extrait des symphonies pour les soupers du roi interprété par l'orchestre de chambre de Jean-François Paillard. Nous parlons cet après-midi donc au cœur de l'histoire de Marie-Thérèse d'Autriche avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Joëlle Chevet, historienne, spécialiste de la société d'Ancien Régime et de l'histoire des femmes, auteur de Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV aux éditions Pygmalion, à la collection Histoire des Reines de France.
Alors Joëlle Chevet, il faut que nous parlions un peu du caractère de cette reine. J'ai toujours à l'esprit les lettres de Madame de la Palatine, de la princesse Palatine, qui dit « Notre bonne reine », comme disait notre bonne reine. Et il y a cette lettre magnifique qui est en français, ce qui est rare parce que la plupart des lettres de la Palatine sont en allemand, où elle s'amuse à imiter la façon dont la reine prononçait le français. Ça devait être assez folklore, si je puis dire, parce que visiblement, elle prononçait avec un très fort accent espagnol.
Alors tout à fait, Marie-Thérèse est arrivée en France à 22 ans, donc elle a perdu évidemment beaucoup moins facilement cet accent français que ne l'a perdu Anne d'Autriche, arrivée beaucoup plus jeune et qui parlait, on disait à l'époque, comme une Parisienne. Oui. Mais Marie-Thérèse d'Autriche, il faut quand même supprimer cette légende d'une reine qui ne parlait pas français. Elle l'a très bien parlé très vite, je pense au témoignage en particulier de l'ambassadeur Saint-Maurice. Elle a été très amie dès le départ avec Madame de Montespan, qui tous les soirs lui faisait la conversation près de son lit en attendant que le roi revienne se coucher, et elle l'attendait jusqu'à ce moment-là. Donc il faut vraiment dissiper cette légende d'une reine qui comprenait mal le français. Elle en comprenait les subtilités. Elle était capable aussi de reparties drôles. Simplement, son éducation était aussi à une réserve et à se contraindre, en particulier dans l'ironie.
J'ai dit qu'au lendemain du mariage, la population française lui avait fait un accueil extraordinaire et la population parisienne plus
le
triomphe de Marie-Thérèse
surtout
à Paris.
La journée du 26 août, l'entrée à Paris d'un couple,
c'est ça.
Qui n'était pas ordinaire, puisqu'en général c'est l'entrée de la reine et l'entrée du roi. Là on a vu un couple entrant dans Paris et qui évidemment, pour la France qui était en guerre depuis 1635, c'était quand même l'annonce d'une félicité. Aucune reine n'a été reçue de cette façon-là, avec tant d'égards, tant de délicatesse aussi de la part d'Anne d'Autriche.
Et cette popularité, elle va la garder.
Et elle va la garder pour des raisons d'ailleurs qui sont naturelles, par sa dévotion. On ne peut pas imaginer évidemment une reine qui n'est pas pieuse. Hein. Le roi combat, la reine prie, c'est de la politique. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a aussi l'aspect, je crois, on dit elle était bonne. Alors évidemment, c'est tout de suite assez péjoratif comme terme. En fait, elle avait une réelle charité qui était celle de cette époque, différente de celle des générations précédentes, où elle-même allait dans les hôpitaux, participait directement aux grandes dames d'ailleurs de ses accompagnatrices qui détestaient être en contact direct. On voulait bien donner de l'argent, de là à soigner directement les malades. Et elle a donné vraiment le ton de cette façon-là, très conforme d'ailleurs à ce qu'était la piété de cette génération.
Je parlais de la princesse Palatine, Madame de Sévigné aussi est plutôt charitable avec la reine. Elle la présente gentiment, si je puis
elle
dire.
Elle la présente non seulement gentiment, mais il ne faut pas oublier que Madame de Sévigné n'est pas si en cours que cela.
Non, bien sûr.
Elle a été partisante, vous le savez, amie de Fouquet. Elle l'a payée d'une certaine froideur de la part de la cour. Et elle est au contraire très flattée, contrairement à ce qu'en disent certains qui interprètent mal ses propos. Et elle est ravie qu'on lui parle de la grossesse de sa fille, puisque vous savez qu'elle est toujours... qu'elle est toujours très inquiète pour Madame de Crignan. Et le moindre mot de Marie-Thérèse lui est au contraire tout à fait cadeau qu'elle apprécie.
Comment vit-elle cette reine? Quel est son quotidien?
Alors d'abord, elle vit tout d'abord en
pas,
public.
Je précise qu'on n'est pas encore à Versailles. Hein. La cour ne s'installe à Versailles qu'en 1682 et la reine mourra en 83. Donc la cour dont on parle est une cour qui est au Louvre et à Saint-Germain.
Et de Saint-Germain, puisqu'il s'installe à la fin des années 1660 à Saint-Germain. Donc c'est une vie, contrairement à ce que on a dit, qui n'est absolument pas retirée. Il suffit de consulter la Gazette de France pour voir l'emploi du temps de la reine de France à cette époque, qui assume totalement, et elle a été formée pour ça, qui assume totalement la parade monarchique à laquelle Louis XIV
elle se plie à beaucoup d'obligations, elle fait des visites, des audiences,
toutes les obligations. À toutes les obligations. Alors avec évidemment des périodes dans son oratoire qui sont peut-être plus longues que celles d'autres reines, encore que je n'en sois pas sûre. Anne d'Autriche et Marie de Médicis ont été très pieuses. Donc elle l'assume absolument et c'est la dernière reine de France à le faire. Ce qu'on en a appelé la parade monarchique, elle est la dernière.
Elle est aussi la dernière reine à avoir assumé la régence.
Alors, elle est la dernière à avoir assumé la régence.
L'impératrice Eugénie plus tard.
Hein, l'impératrice Eugénie. Et qu'elle a exercé à partir de 1672, pendant cette fameuse guerre de Hollande. Et qu'elle a... qui n'a duré que 3 mois, mais à la grande satisfaction de tous les observateurs de l'époque, on s'est souvenu qu'elle avait été élevée pour régner. Là, tout le monde s'en est souvenu à ce moment-là. Elle est enceinte. Cette régence ne va durer que 3 mois, pendant lesquels elle a tous les principaux pouvoirs. Louis XIV correspond avec elle d'Espagne directement et elle transmet ensuite les lettres au ministre. Elle tient les conseils. Elle a vraiment, je dirais, des pouvoirs extrêmement étendus et qui lui seront renouvelés tous les ans jusqu'à la fin de la guerre de Hollande.
Avant cette guerre, il y a eu la guerre de dévolution d'Espagne. Et alors, ça a dû être terrible pour une ancienne infante espagnole devenue reine de France d'assumer la guerre contre son propre pays.
Alors, je pense qu'elle s'en est réjouie au contraire.
Ah bon?
Puisque, comme vous le savez, Philippe IV, son père, à sa mort, a transmis les droits d'héritage du trône d'Espagne à la famille Habsbourg de Vienne. Donc pour Marie-Thérèse, née du premier mariage de Philippe IV, c'est une humiliation terrible. Et c'est au nom de ses droits du premier mariage, des enfants du premier mariage, que Louis XIV va relever les droits de la reine et donc se faire le champion, en fait, de son épouse. Donc je pense qu'au contraire, et on la voit d'ailleurs au cours de cette campagne, inaugurer les villes avec Louis XIV à cheval à côté de son carrosse.
Alors tout ça, c'est quand même le beau côté de la médaille, mais il y a un revers, qui est cette infidélité chronique du roi.
Oui. Alors, infidélité chronique qu'il faut quand même relativiser, puisque vous savez que Louis XIV, après son mariage avec Madame de Maintenon, n'a plus jamais trompé sa seconde épouse. Et je pense que son état physique aussi ne prédisposait plus beaucoup.
Âgé, oui.
Mais il est vrai, oui, que pour Marie-Thérèse, et ça n'est pas seulement, je dirais, une jalousie féminine ou un amour blessé, c'est aussi, et il faut se remettre là dans les conceptions de l'époque et dans le fait qu'elle est persuadée d'appartenir, ainsi que Louis XIV, à une essence supérieure, à cette fameuse société des princes, dans lesquelles il n'est pas question pour elle qu'on puisse se commettre avec quelqu'un qui est en dessous de son statut. Et je crois que cette blessure d'orgueil,
c'est une double
qu'elle
blessure,
reproche
en fait,
à Louis
c'est
XIV,
ça, oui,
oui. Et dont Louis XIV convient. On le verra au moment, par exemple, du mariage de la grande mademoiselle, où c'est elle qui le fait revenir en arrière, alors qu'il a donné son accord pour qu'elle épouse Lauzun. C'est elle qui réussit à le décider, avec toute la cour derrière elle, à ne pas commettre, en fait, cette mésalliance qui, pour elle, est pire que tout. On peut dire quand même au passage que si Louis XIV était mort en 1638, elle aurait épousé avec le même plaisir le frère de Louis XIV.
En 1658,
pas question,
oui,
pour elle d'être autre
chose. Après la bataille des Dunes, oui.
Voilà.
Est-ce qu'on peut considérer qu'elle était jalouse? Je lis un passage de votre ouvrage, vous dites « Thème universel et intemporel que celui de la jalousie qui au XVIIe siècle apparaît comme le moteur de toutes les actions humaines. »
Plus,
on est dans Corneille là. « Plus largement qu'aujourd'hui, elle est définie comme une passion qui exprime un mouvement du cœur ou une agitation de l'âme, mais aussi comme un attribut de la personne qui prend des formes diverses selon le sexe, les origines ou la condition sociale des individus. Ainsi, la jalousie, dites-vous, est considérée comme une vertu souveraine chez un roi qui se doit d'être jaloux de son autorité. Quant aux femmes, elles sont par nature soupçonneuses dans leur joie et jalouses jusqu'à la fureur. Évidemment,
oui,
c'est un traitement inégal.
Avec la connotation espagnole,
oui,
chez Marie-Thérèse, qu'on accuse d'être plus jalouse que n'importe qui parce qu'elle est espagnole et qu'on le sait, les Espagnols sont assez violents dans leurs manifestations jalouses.
Alors est-ce qu'elle ne se serait pas vengée du roi avec quelques beaux seigneurs de la cour, cette reine Marie-Thérèse?
Alors là, ça me paraît très difficile, dans la mesure où une reine de France d'abord n'est jamais seule, comme vous le savez, elle est accompagnée partout, vous savez que la nourrice de Louis XIV dormait devant le lit conjugal. Donc ça me paraît extrêmement improbable et je vois à quoi vous pensez.
Et oui, alors c'est pas moi seulement. Frédéric nous demande via Facebook ce que,
voilà,
vous pensez de la célèbre Mauresse de Moret,
oui,
sœur de Louise-Marie de Sainte-Thérèse, pardon,
voilà,
que toute la cour à la voir prendre le voile, qui était noir et qu'on disait née de Marie-Thérèse, après que la reine avait trop regardé un nain africain.
Oui, alors on a dit beaucoup de choses. On a dit aussi que le père était Louis XIV, mais et pas Marie-Thérèse la mère. Mais bon, tout cela tient.
Ce qui aurait été plus logique
à la
mort de
cette petite.
C'est Monseigneur qui dit qu'il l'avait appelée ma sœur, en fait.
Voilà.
C'est ça.
Alors l'histoire en fait provient de la naissance et de la mort de leur deuxième petite fille. Donc, je crois que c'est en 1664 et qui est née en fait Violette, c'est-à-dire en fait avec le, elle était complètement cyanosée. Mm-hmm. En raison sans doute du cordon ombilical. Quoi qu'il en soit, on l'a tout de suite emmenée loin des yeux de la reine. C'est mademoiselle qui raconte l'histoire, la grande mademoiselle, racontant que le frère de Louis XIV, lui, l'a vue et a dit que cet enfant ressemblait au petit nègre de Marie-Thérèse qui s'appelait Nabot. Je n'ose imaginer, évidemment, une chose pareille. Quant à la mauresse de Moret, c'est une religieuse qui avait été placée en effet dans ce couvent par Madame de Maintenon, qui elle-même témoigne de la chose. C'était la fille d'un jardinier de Versailles et qu'elle avait placée donc dans ce couvent. Et voilà, je pense que c'était que cette religieuse s'est fait des idées quant à sa naissance, qui n'avait rien de royal. Puis je crois, bon, il faut arrêter peut-être aussi de propager ces histoires qui n'ont aucun fondement autre que le goût du scandale et de raconter, voilà, des histoires un petit peu aigriardes par rapport à la famille royale.
Ah oui, ça fait partie de notre
voilà,
plaisir.
Non, mais ça
ne
fait partie
du jeu, pas notre
d'autant
plaisir,
que ça a agité la cour, d'autant que ça a agité la cour tout à
bien
fait.
Bien sûr, hein, oui, ça a été une vraie question.
Tout à fait, ça a été une vraie question. Et en fait, c'est Madame de Maintenon qui a tranché.
Alors, le roi va se lasser de Madame de Montespan, notamment à cause de l'affaire des poisons. On ne va pas entrer dans toute cette affaire.
Non.
Elle aura eu le plaisir, si je puis dire, cette bonne reine Marie-Thérèse, de voir Madame de Montespan, sinon disgraciée, puisqu'elle était la mère d'enfants légitimés, mais en tout cas mise un peu à l'écart par Louis XIV, qui emmène sa femme légitime dans une grande tournée qui va la tuer, si je puis dire.
Et oui. Et oui, on est donc à la fin de la vie de Marie-Thérèse, donc au cours de l'été 1683, où donc le roi avait pris l'habitude depuis plusieurs années de faire la tournée des forteresses édifiées par Vauban, donc sur les frontières est et nord de la France. Donc c'est au retour d'une de ces tournées, fin juillet, donc la reine rentre à Versailles, où
épuisée,
la cour est installée
oui.
depuis un an. Au départ, elle semble assez en forme, elle est ravie de voir les nouveaux travaux, les jets d'eau établie dans les jardins, elle visite et puis très vite elle se plaint donc d'une douleur sous l'aisselle gauche, un gros abcès en fait, et on assiste là à cette mort surréaliste de la reine, une mort bête je dirais, puisqu'elle est provoquée par non pas l'ignorance mais l'entêtement de ses médecins, le premier médecin du roi ayant décidé de l'emporter sur le premier médecin de la reine et au lieu d'inciser l'abcès, de la saigner, de la purger et de la tuer. Comme le dit la Palatine, ce sont les médecins qui ont tué la reine.
Ils l'ont tué, une de plus, si je puis dire, à leur tableau de chasse.
Oh, tout à fait.
Voilà le premier chagrin que la reine me donne, dira Louis XIV. Je trouve que c'est une
oui.
belle
alors
belle
est-ce,
est-ce que c'est un vrai mot ça,
est-ce c'est... apocryphe. Je n'ai jamais pu retrouver l'origine de cette phrase.
Oui. En tout cas, on parle toujours de Marie-Antoinette, assez peu de Marie Leszczyńska et tout simplement jamais de Marie-Thérèse d'Autriche. Donc c'est une très bonne chose. Vous lui avez rendu justice, Joël Chauvet.
Et je vous en remercie.
Dans cette biographie qui paraît donc chez Pygmalion sur l'épouse de Louis XIV dans la série L'histoire des reines de France. Merci beaucoup.
Et dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous répondra à la question de Julie qui souhaite connaître l'origine de l'éventail.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Julie qui nous l'a envoyée sur la page Facebook de l'émission et qui aimerait connaître l'origine de l'éventail.
Oui, on reste dans la même thématique, si je puis dire. Alors, je vais passer très vite. Vous savez, sur ces éventails de l'Antiquité, ces grands, immenses éventails destinés à protéger les souverains des mouches, il s'agissait souvent de crins de cheval qui étaient attachés à des manches de bois plus ou moins précieux. Les plus vieux qu'on ait retrouvés sont ceux de la tombe de Toutankhamon. Vous savez, ils étaient 8 hein, quand même dans cette tombe, ces éventails qui permettaient, disait-on ou croyait-on dans l'Égypte antique, de redonner le souffle, la respiration aux défunts. À cette époque, les porteurs d'éventails de Pharaon étaient des personnages très importants parce qu'ils avaient tout simplement l'oreille du roi. Au 5e, 6e siècle avant notre ère, l'éventail devient un accessoire de mode chez les Étrusques. On le voit sur un certain nombre de scènes représentant, de fresques représentant des femmes romaines. Mais son usage ne se retrouve tel que nous le connaissons qu'en Orient, en Extrême-Orient, au 7e siècle de notre ère. C'est le sensu japonais, vous savez, qui est un éventail qui se replie. Et l'on dit que son inventeur se serait inspiré des ailes des chauves-souris. C'est cette version-là que les Portugais vont aller prendre au Japon et rapporter au milieu du 16e siècle en Europe. Et on sait que Catherine de Médicis, qui ne quittait jamais son éventail, va mettre cet accessoire à la mode à la cour de France. Ça va rester un accessoire réservé à l'aristocratie pendant très longtemps, avant qu'il ne se démocratise dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Ce qu'il faut juste ajouter, c'est qu'à l'époque, il existe tout un langage symbolique de l'éventail, un langage qui sera fixé par Duvelroy au XIXe siècle, vous savez. Alors quand vous tenez l'éventail devant le visage, ça veut dire « suivez-moi »,« je vous hais » ou « je vous aime » ou « embrassez-moi » selon la position. Tout un langage, tout un raffinement. Allez, encore une chose de perdue.